Eh bien, alors nous allons passer à l'autre partie du programme. Je vais demander à ceux qui sont à la table, qui ne sont pas aussi présidents d'une SO, d'une organisation de soutien ou d'un comité consultatif, de libérer les places. Donc aussi le comité de nomination et l'ombudsman, enfin toute la personne qui présente des rapports au cours de la prochaine heure, de l'heure à venir, venez ici et trouvez un micro et un siège sur la scène.
And we're going to do this reasonably alphabetically, so we're going to begin with the ALAC and then go to the ASO and the CCNSO.
Nous allons faire cela dans un ordre alphabétique, nous allons commencer avec l'ALAC et ensuite passer à l'ASO et ensuite au CCNSO.
Thank you, board members, for making that transition easy, and thank you, Ace.
Donc merci aux membres du directoire pour faciliter cette transition, et merci aussi au président du comité consultatif et des organisations de soutien pour avoir pris leur place sur la scène. Nous commençons avec le comité consultatif at large et je demande à Sherry Langdon Orr, la présidente de cette groupe, de nous présenter le rapport. Merci Monsieur le Président et merci d'être là si tôt, même si vous n'êtes pas tellement éveillé après une très très longue semaine, le rapport du comité consultatif at large, mais plus important encore, la communauté at large que je vous présente aujourd'hui se trouve déjà sur le site web de la Réunion et se trouvera aussi sur le site web notre site web at large. C'est un long document, il contient beaucoup d'informations et je vous encourage de le lire, cela vaut la peine. Je vais donner à Peter une copie papier avec la copie de nos diapositives pour aujourd'hui. Nous allons aussi lire et donner des copies papier de ces magnifiques documents régionaux qui ont été produits depuis la réunion de Nairobi en langue multiple. Alors, à ces réunions, nous avons eu 26 membres des 5 régions at large qui participaient. Donc, il y avait bien sûr les 15 membres de l'ALAC, il y avait aussi les structures at large, les ALS, qui sont vraiment les terrains où tout le travail doit se réaliser. Et ils ont participé à nos 13 réunions officielles et à 2 réunions qui réunissaient beaucoup de regroupements. Donc ici, il s'agit simplement des réunions officielles auxquelles nous avons participé. Le At Large a aussi apparemment été présent dans pratiquement toutes les salles qui ne les jetaient pas dehors au cours des débats de cette semaine, de toute la semaine, et nous avons aussi participé à des activités de groupes de travail normal avec les groupes de travail GNSO, nous avons participé au groupe de travail sur l'intégration verticale, à l'équipe de travail sur la haute sécurité. Moi aussi j'ai trop de boutons, je m'en sors pas, j'ai pas assez de mains. Alors la deuxième diapo m'amène à vous parler des questions de conformité de RAA et à nos réunions. Et vous trouverez des déclarations dans notre rapport à ce sujet. Nous soutenons le renforcement et l'attribution de ressources adéquates aux activités de conformité de ICANN. C'est une matière absolument fondamentale pour générer la confiance au niveau des consommateurs et des utilisateurs finaux. Le fait que nous ayons une conformité forte et efficace. Merci beaucoup, Louis. C'est ce que nécessitait un technicien et nous voulons vraiment travailler parce que nous avons discuté de manière plus étroite avec les registraires. Alors nous avons eu une réunion commune très productive ici, Monsieur le Président, une pièce complètement remplie, une salle de réunion remplie, et nous voulons effectivement entamer une coopération plus approfondie et explorer les coopérations mutuelles à l'avenir. Ma diapo suivante m'amène à quelque chose qui me fait très plaisir, et c'est le rapport du travail qui a été réalisé depuis Nairobi et depuis la résolution du directoire numéro 20 qui demandait la formation du groupe de travail conjoint à l'ACAC et GNSO sur l'exploration des options, l'examen des options pour un modèle d'assistance pour ceux qui en auraient besoin dans le cadre des nouveaux GTLD. À cette réunion, nous avons de nouveau une salle de réunion pleine à craquer de la communauté africaine. Donc c'était la réunion de l'AFRALO régionale et les membres at large et le groupe de la communauté africaine, et ils ont apporté une déclaration très réfléchie qui a été donc intégrée dans le groupe de travail exactement au moment approprié. La communauté demande une contribution et le travail impliquant les différentes communautés a été réalisé, a été intégré directement dans le groupe de travail. Katine a demandé à Tijani, un des leader de AFRALO, de communiquer cela directement au directoire. Donc, ce qui doit être fait à propos du comité consultatif at large, sur son point de vue, c'est que les paroles de cette déclaration, alors qu'elles étaient adaptées aux besoins africains, devraient pouvoir être appliquées à d'autres régions également, aux besoins particuliers des autres régions. Alors, pour passer maintenant aux questions très importantes de nos améliorations at large, de la mise en œuvre de ces améliorations, nous avons regroupé ce que nous devons faire et il y a une liste de 13 tâches, 13 recommandations et beaucoup de sous-tâches qui doivent être entreprises pour que cela soit concrétisé. Nous avons entendu parler de la part du comité des améliorations structurelles, comment la planification se déroule. Mais si vous ne voulez pas tous lire des rapports de 65 pages, voici une diapo en 5 jolies couleurs. Nous les avons regroupées en fonction des sujets suivants. Donc l'objectif permanent de ALAC, les sujets très importants entre maintenant et Cartagena, de l'administrateur sélectionné par at large, la participation des ALS, les processus de planification de l'ALAC et nos conseils politiques. Simplement pour vous donner une brève description d'où nous en sommes par rapport aux 13 recommandations sur les améliorations de at large. Voici un diagramme très bref qui nous montre que nous allons vers les 75% par rapport à quelques points clés, mais nous pensons que nous sommes sur la bonne voie et nous voulons aller beaucoup plus loin entre maintenant et décembre dans tous ces projets, dans tous ces plans de mise en œuvre. Alors ça m'amène à la chose la plus importante qui est, donc j'arrive à la fin de mes diapositives, mais ce sont les remerciements pour l'énorme engagement que notre personnel et nos dirigeants régionaux et les membres des structures at large ont donné, les centaines d'heures qu'ils ont consacrées pour contribuer au développement des politiques dans les groupes de travail, pas seulement dans le comité consultatif at large ou dans le monde at large, mais aussi dans d'autres parties de ICANN. Donc nous les félicitons, chacun d'entre eux. Ce sont ces voix que vous entendez lorsque vous recevez un conseil de ALAC. Cela vient des limites, cela vient de l'extérieur et tout cela est intégré et tissé dans une vision ou une diversité de visions et le message passe. Je n'ai pas besoin de mentionner un changement de leadership parmi toutes les autres réunions que nos membres ont réalisées ici cette semaine. Nous avons réussi à réunir Euralo et Apralo qui ont eu leur réunion mensuelle normale et aussi la réunion mensuelle normale de la région d'Asie-Pacifique. C'est un grand plaisir pour moi de vous signaler, Monsieur le Président, qu'avec un vice-président élu de manière intersessionnelle entre Nairobi et maintenant, Fouad Bajwa est notre vice-président et quelqu'un d'autre a été nommé comme président actuel de l'organisation at large régionale de l'Asie-Pacifique. Nous allons donc demander l'élection d'un second vice-président peu après la clôture de cette réunion et nous voudrions qu'il soit noté dans le procès-verbal notre respect et nos meilleurs voeux aux deux nouveaux leaders qui seront donc notre président et nos vice-présidents qui pour des raisons personnelles et médicales ont dû nous quitter malheureusement. Merci Cheryl pour ce rapport sur les activités de At Large et de l'ALAC. Est-ce qu'il y a des questions de la part du directoire? Bruce Tonkin. Merci Peter. Cheryl, sur ta première diapo, tu as mentionné qu'il y avait suffisamment de ressources investies dans la conformité. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, approfondir la manière dont cela a été évoqué évalué? Est-ce que ça a été évalué de façon précise? Est-ce qu'on s'est concentré sur la précision de who is? Et étant donné qu'il y a des imprécisions dans who is, y a-t-il donc un problème de conformité? Ou est-ce que ça a été évalué sur la base du fait que vous pensez qu'une plainte par rapport à la conformité a été réalisée et que le personnel n'a pas réagi? En réalité, ce n'est pas limité à ces problèmes du tout. Cela ressort du groupe de travail qui a discuté de ces sujets, et nous pensons qu'il faut attribuer des ressources au personnel et aussi pour permettre la capacité de se concentrer sur, par exemple, la conformité en matière financière. Et nous devons nous concentrer aussi sur les choses qui sont importantes pour nos consommateurs. Nous voudrions assurer que la conformité est dotée efficacement d'outils et de ressources humaines pour assurer que nous sommes vraiment dans un environnement de confiance. Je ne dis pas simplement que c'est uniquement à cause de who is.
Donc, vous avez parlé de deux choses, deux commentaires, c'est-à-dire le personnel et les outils efficaces. Une des choses qui ne sont pas très apparentes au Conseil et qui ont été discutées hier après le forum public, nous avons entendu un certain nombre de personnes parler de problématiques autour de la conformité, et nous avons demandé au cadre supérieur de quelles ressources ils avaient besoin. Et de quoi parlons-nous exactement? De quelles ressources avons-nous besoin? Certains des outils ne sont pas nécessairement des outils qui dépendent de nous. Certains outils sont des outils de politique qui doivent être créés par la communauté. Donc le programme de conformité, pour le moment, pour que vous compreniez, et je vais prendre l'exemple de Who Is. Il peut y avoir d'autres, mais prenons par exemple l'exemple du Who Is. Le système tel qu'il est construit aujourd'hui est que le titulaire de nom de domaine et à la garantie que les informations qu'il fournit sont des informations correctes. Et si le membre de la communauté trouve que ceci n'est pas correct, ils doivent signaler le problème au bureau d'enregistrement. Et le bureau d'enregistrement prendra alors les mesures appropriées. Donc, il doit y avoir une conformité pour que les bureaux d'enregistrement puissent répondre à ceci. Et de notre côté, il y a une conformité au niveau du titulaire de nom de domaine. Et donc, est-ce qu'il y a des systèmes qui vérifient tout ceci et que nous puissions donc après contacter le bureau d'enregistrement et leur demander d'ajuster les choses? Donc, il y a, une fois qu'une décision de politique est faite, nous pouvons alors prévoir les ressources et donc aider la fonction du personnel. Une des questions que nous a posées hier est... Si nous avions ajouté quelques millions de dollars dans le budget pour l'équipe de conformité. Je suis désolée, mais il faudrait que nous arrêtions sur les détails. Est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, nous allons passer la parole à Louis qui va nous présenter donc le rapport. Merci Peter, merci à tous les membres du Conseil. C'est le rapport des ASO. Je suis Louis Lee, le président de l'ASO. Je voudrais vous dire que le matériel qui est contenu dans ce rapport a déjà été transmis au GAC au début de cette semaine. L'IPV4, donc nous avons encore 16 blocs d'allocation IPv4 qui se trouvent encore à l'IANA. Et nous estimons que ceci sera fini en août 2011. Donc entre août 2011 et avril 2012. Nous voyons qu'il y a un taux de consommation accru dans la région Asie-Pacifique et ceci n'est pas surprenant. La croissance en Asie-Pacifique le justifie. Pour l'IPv6, nous voyons également une croissance du taux d'adoption et ceci constitue une bonne nouvelle. Nous recevons des mises à jour régulières concernant le soutien des vendeurs et dans le cadre de nos réunions régulières. Mais la mauvaise nouvelle, c'est que l'adoption n'est pas assez, le taux d'adoption n'est pas assez rapide pour qu'il puisse nous permettre une adoption de dernière minute. Il y a un petit montant donc de queue, mais dans l'ensemble, les personnes demandant un espace d'adressage IPv6 comprennent qu'ils le recevront lorsqu'ils iront au RIR et qu'il n'y aura plus de IPv4 disponible. Les activités des registres Internet régionaux, les 5 registres Internet régionaux, sont en rapport avec le faire savoir à tous les niveaux et lors de toutes les réunions régulières. Lors de la réunion du groupe sur l'IPv6 en mars, une décision avait été prise concernant l'investigation des rumeurs par rapport au nombre d'allocations IP avant d'atteindre des conclusions et des solutions, donc, s'il n'y avait pas de problème, pour voir s'il y avait vraiment un problème. La concentration du faire savoir de l'IANA et des attentes de gestion font partie des points qui sont de notre programme. Les RIR travaillent avec l'ICANN et l'IANA pour la signature de la racine IANA et travaillent également pour le déploiement du service RPKI en 2011. Les activités du Conseil. Donc, le conseil d'adressage ASO a désigné récemment QOVU au conseil d'administration de l'ICANN. Nous surveillons 3 propositions de politique mondiale considérant donc qui examine les numéros, les nombres, les autonomes, les allocations de l'IANA vers les RIR et le retour et la restitution et la redistribution des adresses IPv4. L'ASO a identifié des moyens d'accroître la communication et je vous remercie infiniment. Est-ce qu'il y a des questions suite au rapport de l'ASO? Donc, nous pouvons dire maintenant bonjour à Chris Dispain et lui demandons son rapport. Ça, c'est vraiment bonjour. Un petit problème avec le micro. Je n'ai pas de diapo. Comme d'habitude, nous archiverons tous les documents par la suite. Nous avons eu une rencontre très, très animée. Et c'est en fait la première fois que le SCCNO n'a pas pu compléter tout, passer en revue tous les points de l'ordre du jour en 2 mois. Nous avons commencé donc à travailler avec les IDN. Concernant le planning opérationnel et le budget, nous en avons beaucoup parlé. Nous avons exprimé des commentaires et nous avons soulevé certaines questions concernant les contributions financières. Donc, il y a 2 aspects, 2 volets à cette discussion. Un volet concerne la discussion et le débat sur le quantum et l'autre sur la méthodologie de paiement. Ce serait injuste de suggérer que nous sommes arrivés à un certain accord. Nous ne sommes pas encore arrivés à un accord, au contraire, mais nous sommes en train d'avoir des informations, un partage d'informations extraordinaire et nous avons l'intention de faire le travail et d'arriver à une solution. Au cours du forum public hier, le groupe de la rédaction pour l'analyse de la stabilité et la sécurité, nous en avons parlé, ce sera peut-être pas le titre exact, mais c'est plus ou moins le titre qui va être adopté. Nous avons eu donc une rencontre très intéressante et très animée avec l'équipe de révision du CCNO. Le document de révision nous sera présenté et débattu. Et bien sûr, nous prévoirons une période de consultation publique jusqu'au 15 septembre pour que nous puissions avoir donc une réponse qui sera une réponse appuyée et soutenue par tous les membres du CNSO. Concernant le processus de développement des CCTLD IDN, il y a un progrès concret qui a été fait par le groupe de travail et la communauté. Nous adaptons maintenant la définition des IDNA pour expliquer exactement qu'est-ce qu'un TLD IDN. Et nous avons commencé également à examiner les variantes et les problématiques de gestion de variantes, ce qui est bien sûr très important. Pour mentionner les codes de pays, excusez-moi, les noms de pays dans l'espace GTLD, le CCNSO accueille les changements de position concernant la candidature des noms de pays dans le cadre du processus des nouveaux GTLD tel qu'exprimé dans la dernière version, la version 4 donc, du guide de candidature. Et nous vous remercions concernant la délégation et la redélégation. Il s'agit d'un document très très intéressant que je vous recommande de lire. Cela vaut la peine de le lire. Chris, à un moment, je crois que nous avons perdu la fonction de scribe. Je ne sais pas si c'est un problème, je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer. Je vois quelqu'un se déplacer là sur l'écran. Ah, voilà. Je pense que nous sommes de retour. Très bien, vous continuez donc. Alors, je vais reprendre lentement, délégation, redélégation. Donc, le groupe de travail a publié une analyse de la délégation, redélégation dans les CCTLD. Et je vous recommande à tous de le lire. C'est un document décisif pour notre travail. C'est un document précieux et qui vous montrera donc comment tout ceci fonctionne. Quelques autres points. Que nous avons eu donc une réunion de planification stratégique pour examiner, pour voir ce que le CCLD croyait, pensait que l'ICANN devait examiner du point de vue stratégique au cours des 3 à 5 années à venir. Il y a beaucoup de travail à faire, nous allons le poursuivre. La séance a été très intéressante. Et nous avons contribué de manière efficace au processus de planification stratégique. Nous nous sommes réunis avec les agences d'application de la loi. Nous avons parlé des moyens de satisfaction des lois. Et enfin, et ceci à travers les limites territoriales. Finalement, enfin, je voudrais vous remercier le RID pour leur organisation. Je voudrais remercier les sponsors pour le dîner du CCNSO. Et bien sûr, de la part du CNSO, je voudrais souhaiter la bienvenue à Heather en tant que nouveau président du GAC. Et nous attendons avec impatience la collaboration avec vous. Est-ce que vous avez des questions? Des questions à poser à Chris concernant le rapport du CNSO. Apparemment, le programme est très rempli, voyant qu'il n'y a pas de questions. Je voudrais aussi me joindre à Chris et souhaiter la bienvenue à Heather Dryden, qui donc remplira la fonction de président provisoire intérim du GAC. Et je comprends que ce processus, surtout après la démission et le revoir de Janice hier. Et nous attendons vraiment avec impatience la collaboration avec vous. Et maintenant, bien sûr, nous allons écouter le communiqué du GAC. Merci, Monsieur le Président. J'apprécie tous ces mots de bienvenue. Aujourd'hui est ma première journée. Je vais donc lire le communiqué comme une introduction. Le comité consultatif gouvernemental de l'ICANN fait donc à Bruxelles entre le 19 juin et le 23 juin 2010, 60 membres et 4 observateurs ont participé à la réunion. Le comité gouvernemental exprime sa gratitude à l'ERID pour l'hébergement de cette réunion à Bruxelles et remercie l'ICANN pour le soutien apporté à la réunion du GAC. Le groupe de travail conjoint, conseil d'administration, comité du GAC sur la révision du rôle du GAC dans le cadre au sein de l'ICANN, s'est également réunie concernant les recommandations et les conseils du CAC au conseil d'administration et le rôle des agents de liaison du GAC. Concernant les conseils donc du GAC au conseil et pour faciliter l'interaction entre les regroupements de l'ICANN et pour l'élaboration des politiques. De plus, le GAC veut parvenir à un consensus concernant son travail et si ceci ne peut pas être atteint, si le consensus n'est pas possible, un éventail d'opinions et de vues pourront être fournis en tant que conseil. Les règlements prévoient uniquement que les conseils du GAC seront fournis au conseil d'administration et ne prévoit pas de prestations de conseil aux autres organisations de soutien. Certaines recommandations ont été identifiées, y compris la création d'un registre transparent pour enregistrer les avis du GAC à mesure qu'ils seront fournis et également le conseil a pris en considération ces conseils spécifiques du GAC. Nous voulons donc finaliser le rapport en Colombie. Et concernant les nouveaux GTLD, y compris les questions de moralité et d'ordre public, le GAC a reçu une mise à jour du personnel de l'ICANN sur les changements qui ont été incorporés dans la version 4 du guide de candidature. Le GAC espère et voudrait reconnaître le travail dévoué du personnel de l'ICANN dans l'examen des problématiques qui préoccupent le GAC. Le GAC a fourni une réponse concernant la version 4. Il attend encore la réponse à ses commentaires et à sa lettre au Conseil qui répondait à la version 3. Le GAC estime que le processus des nouveaux GTLD devrait satisfaire l'intérêt public mondial de manière cohérente avec l'affirmation d'engagement. Il enjoint donc à l'ICANN de fixer une série d'exigences techniques et les documents clés et décisifs devraient être disponibles dans toutes les langues des Nations Unies. Le GAC demande que les communications et la stratégie de faire savoir concernant le programme des nouveaux GTLD soient développées dans le but d'inclure tout le monde et ceci en tant que priorité clé. Le GAC apprécie l'échange des opinions sur les problématiques avec le GNSO et le GAC va rencontrer également le CCNSO.
Le GAC apprécie l'invitation du CCNSO à faire des commentaires sur le texte et il se réjouit d'autres discussions qui auront lieu avant la réunion annuelle ou lors de la réunion annuelle en décembre 2010. D'autres questions abordées pendant l'échange ont compris une actualisation des membres des CCTLD et du GAC sur les demandes imminentes du DNCCTLD dans le processus fast-track, le traitement des noms géographiques et le traitement des noms géographiques dans les nouveaux GTLD. En outre, le GAC soutient la décision du CRON de travailler en commun avec le GNSO, le SSAC et l'ALAC pour rédiger une charte pour un groupe de travail qui rassemblerait plusieurs regroupements pour envisager d'autres propositions de l'ICANN concernant la sécurité et la stabilité des DNS. Le GAC remarque que ces questions sont d'intérêt public et indique sa disposition à travailler avec d'autres parties de la communauté ICANN sur cette problématique importante. En ce qui concerne le respect de la loi, l'application de la loi, les recommandations de due diligence, une majorité absolue des membres du GAC ont fait la déclaration suivante. Le GAC encourage le directoire, le groupe de travail RA et les registraires à travailler avec les agences responsables de l'exécution de la loi, des agences des autorités judiciaires pour aborder leurs préoccupations et mettre en œuvre les changements nécessaires sans retard. À la suite du communiqué de Nairobi du GAC, le GAC demande une actualisation des progrès, des dernières informations sur les progrès, sur la prise en considération de ces propositions, y compris la considération par le directoire des recommandations de due diligence sur base des délibérations de Bruxelles et des réunions antérieures. Le GAC approuve les propositions faites par les autorités judiciaires pour s'attaquer aux utilisations criminelles des DNS, en remarquant que la mise en œuvre de ces propositions doit respecter la loi applicable et respecter toutes les exigences concernant le traitement des données personnelles telles que la vie privée, la précision, la pertinence. Certains pays ont pensé que d'autres efforts devaient être déployés pour clarifier ces propositions. Nous avons également une réunion avec l'équipe d'évaluation, la TRT, et le GAC les a rencontrés, donc a rencontré la TRT pour discuter d'un certain nombre de questions liées à la reddition de comptes et à la transparence des interactions du GAC avec ICANN. Une grande partie de la discussion a couvert les mêmes domaines que ceux qui sont ressortis du travail du groupe de travail conjoint sur l'évaluation du rôle du GAC, y compris la nature et le traitement des conseils du GAC donnés au directoire et la nécessité d'un engagement précoce dans les activités PDP, donc avec les regroupements de l'ICANN. Le GAC travaillera au niveau intersessionnel pour donner une réponse écrite aux questions de la TRT. Le GAC s'est réuni également avec le NRO. Le GAC a accueilli très favorablement le briefing du NRO sur les dernières informations pour la gestion de l'espace adresse IP et l'épuisement de l'espace adresse IPv4. La date d'épuisement estimée pour les adresses IPv4 était août 2011, et le RIR l'a estimé à avril 2012 sur base du taux d'attribution actuel. Le GAC et le NERO ont mis en lumière le besoin et l'importance de coopération entre les RIR et les gouvernements pour promouvoir le déploiement de l'IPv6 et pour s'attaquer aux besoin d'attribution pour les espaces d'adresse IPv6 dans le monde entier. En ce qui concerne le soutien du secrétariat du GAC, le GAC a discuté d'une proposition affinée pour assurer un soutien approprié du secrétariat au GAC selon un modèle hybride, en d'autres termes, financé par les gouvernements avec un soutien continu permanent de la part de l'ICANN. Le GAC a accepté l'offre du Brésil, de la Norvège et des Pays-Bas de financer et d'accueillir un secrétariat pendant 5 ans. Les pays donateurs ont l'intention de mettre en place un secrétariat dégressé et flexible qui pourrait offrir un soutien proactif et professionnel aux membres. Il propose d'évaluer le secrétariat après 3 ans pour voir comment progresser après le soutien financier de 5 ans qui est garanti actuellement. Ces pays vont commencer à prendre les dispositions nécessaires pour que le secrétariat soit opérationnel au plus tard à partir de la 41e réunion ICANN du GAC en 2011, permettant une transition du secrétariat actuel qui est assuré par l'Inde. En termes d'élection des responsables du GAC, des représentants au GAC, M. Janice Kirklins a démissionné de son poste de président du GAC à la suite de son départ du gouvernement letton. Cette démission prendra effet au 24 juin 2010, a pris effet le 24 juin 2010. À la suite de dispositions de l'article 9 des principes d'opération du GAC, le GAC a nommé Mme Esther Heather Dryden du Canada pour qu'elle serve de présidente provisoire, intérimaire, et comme officier de liaison du GAC non votant avec le directoire pour le reste du mandat de la présidence qui se termine à la fin de la première réunion du GAC en 2011. Cette nomination prendra effet à partir du 25 juin 2010. Le GAC a annoncé le processus de nomination des propositions de candidature pour le poste de président et 3 vice-présidents. L'élection des nouveaux responsables aura lieu pendant la réunion de Cartagena du GAC. Les membres du GAC ont souhaité la bienvenue à Mme Heather Dryden et exprimé leur gratitude au président sortant, M. Janice Kirklins, pour son service au GAC. En termes de principes de fonctionnement du GAC, le GAC a créé un groupe de travail ad hoc qui évaluera les principes de fonctionnement du GAC. Les propositions des groupes de travail seront examinées au cours de la réunion de Carthagène du GAC. Le GAC a également noté la déclaration du comité des ministres du Conseil de l'Europe adoptée le 26 mai 2010 sur une coopération accrue de ses États membres dans toutes les matières liées à la gouvernance d'Internet et a accueilli favorablement le Conseil de l'Europe en tant qu'observateur au GAC. Le GAC remercie chaleureusement tous ceux parmi la communauté ICANN qui ont contribué au dialogue avec le GAC à Bruxelles. La prochaine réunion du GAC aura lieu pendant la période de la rencontre ICANN à Cartagena en Colombie. Merci Heather. Y a-t-il des questions du président provisoire du GAC par rapport au communiqué? Rip Zach au micro. Je parle à titre du coprésident du groupe de travail conjoint directoire et GAC. Tout d'abord, je voudrais exprimer ma reconnaissance à tous les membres du directoire. Ma coprésidente Heather a fait aussi un travail admirable. Alors, je voudrais aussi insister sur le fait que les membres du directoire au groupe de travail ont considéré particulièrement important le rôle des officiers de liaison. Un travail est très important, pas seulement la liaison avec le président, donc la plupart des membres du directoire connaissaient bien, mais aussi tous les responsables des liaisons avec le non-com et les liaisons plutôt actives pour le moment avec les différentes organisations de soutien et comités consultatifs. Nous avons vu un rajeunissement des efforts visant à aider, à faciliter la participation du GAC au premier stade du processus de développement des politiques, d'élaboration des politiques. Et donc, il est utile que nous ayons des conseils tôt pour qu'ils puissent être tenus, pris en considération dans le processus de développement de politiques au fur et à mesure de son progrès. Rob, des questions online? Est-ce que tu m'as dit non, Rob? Ça ne fait que 10 minutes. Ça ne fait que 10 minutes que je travaille. Après le G du GAC, nous en venons au G du GNSO et je dis bonjour à Chuck Gomez, le président du conseil de ce groupe, et je demande à Chuck de présenter le rapport. Merci à tous. Voyons voir si je m'en sors avec l'équipement technique. Je ne vais pas essayer de résumer tout le travail que nous avons réalisé depuis Nairobi, mais nous avons travaillé non-stop au GNSO. Nous avons eu des contributions provenant de centaines de personnes au sein de la communauté GNSO et provenant aussi d'autres communautés de l'ICANN, parce que notre travail est ouvert à tous ceux qui souhaitent apporter des contributions bénévoles, bien entendu. Alors, nous avons eu une semaine très pleine. Nous avons eu 8 sessions samedi avec en plus une réunion conjointe avec le GAC. Nous avons eu 12 sessions dimanche qui ont inclus une réunion conjointe avec le directoire et le personnel. Alors, lundi, nous nous sommes réunis avec le CCNSO, donc une réunion conjointe avec le CCNSO. Mardi, ça a été la journée des regroupements et des parties prenantes. Nos parties prenantes et nos groupes de parties prenantes se sont réunis toute la journée, certains ensemble, dans plusieurs sessions. Donc, il y a eu des réunions conjointes des différents groupements, etc. Mercredi, nous avons eu une réunion du conseil GNSO public de plus de 4h30. Nous avons eu ensuite une réunion de suivi à cette réunion le jeudi. Et en plus, il y avait toute une série de sessions de groupes de séances de travail, de groupes de travail et d'autres séances pour obtenir la participation du public sur les différents projets sur lesquels nous travaillons. Certains des accomplissements de cette semaine. Certains des accomplissements de cette semaine, le Conseil a terminé un exercice de définition de priorité qui nous a permis de choisir en priorité 14 projets actifs qui sont en cours maintenant. Nous avons choisi notre procédure pour l'approbation des candidats pour l'affirmation, donc pour l'équipe d'évaluation, pardon, de l'affirmation des engagements. Nous avons commencé la discussion sur le type d'étude Who is que nous allons démarrer au cours de l'exercice fiscal, de l'exercice financier 2011. Alors, nous avons approuvé les communications par rapport aux améliorations du GNSO et les recommandations de l'équipe de travail sur la mise en œuvre de la coordination qui sont spécifiquement liées aux améliorations du site web du GNSO, ainsi que les recommandations et les directives pour la communication avec d'autres organisations de l'ICANN. Alors maintenant, tout cela est prêt pour être mis en œuvre. Nous avons ouvert également une période de commentaires publics. En ce qui concerne donc une période de commentaires publics sur certaines améliorations supplémentaires des opérations, des procédures du GNSO, des changements qui seront mis en œuvre concrètement par le Conseil après la période de commentaires publics. En outre, nous avons ouvert aussi une période de commentaires du public pour la discussion de recommandations relatives au groupe relatives aux procédures opérationnelles pour les groupes, les différents regroupements et les groupes de parties prenantes. Alors, en ce qui concerne les progrès en cours en ce qui concerne le GNSO. Je voudrais simplement dire généralement que, d'une manière générale, que nous sommes probablement à 3 mois environ de la finalisation de toutes les recommandations concernant les améliorations du GNSO. Le modèle du groupe de travail qui est responsable de la mise en œuvre de recommandations a une période de commentaires. Ils sont vraiment très proches de la fin en fonction des commentaires, en fait. Le processus d'élaboration des politiques ou les recommandations concernant le processus d'élaboration des politiques ou les recommandations sur le PDP, comme la plupart d'entre nous l'appellent, ont un rapport préliminaire qui est déjà publié pour recueillir les commentaires du public et de bons progrès sont réalisés. Les procédures de fonctionnement définitive du GNSO, simplement quelques éléments et on est aussi très près de la fin. Et puis le groupe des parties prenantes et les procédures de fonctionnement des regroupements, donc l'équipe de travail qui est responsable des procédures de fonctionnement concernant les regroupements a l'une ou l'autre tâche à terminer. Alors, les politiques sur les fraudes à l'enregistrement ont publié un rapport. Il y a une session cette semaine ouverte aux contributions du public. La politique de transfert, la partie B de la politique de transfert interregistraire, ça c'est la seconde d'une série de 5 PDP. On fait beaucoup de progrès à ce niveau-là aussi. Il y aura une période de commentaires publics qui va démarrer dans les jours à venir. Alors, la récupération des noms de domaine post-expiration, donc ce PDP-là reçoit du feedback sur certaines de leurs recommandations possibles. Et bien sûr, comme tout le monde le sait, le groupe de travail sur l'APDP de l'intégration verticale s'est réuni au moins 4 fois cette semaine et continue à s'efforcer de réaliser ce que le directoire l'a chargé de réaliser à Nairobi. Alors, il y a quelques autres choses qui ont été faites cette semaine. Nous avons une demande de la part de CCNSO, comme Chris l'a mentionné, pour remettre sur pied une équipe de rédaction qui se pencherait sur une charte possible pour la création d'un groupe de travail SSR qui pourrait être ouvert à la communauté, pas limité au CCNSO et au GNSO. C'est juste le fait que les deux organisations de soutien, ainsi que la LAC et le SSAC, ont aussi exprimé leur soutien à cela. Donc, vous en entendrez davantage à ce sujet au cours des prochaines semaines et des prochains mois. Et ensuite, une motion a été approuvée pour permettre un accès audio en direct aux réunions du GNSO. Je voudrais remercier tous les participants au GNSO et les autres membres de la communauté qui ont participé activement à tout le travail qui a eu lieu parce que ça a été une quantité énorme de travail. Et ça n'aurait pas été possible sans les centaines de bénévoles qui ont contribué à ce travail. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Chuck. Encore une fois, beaucoup de travail pour le GNSO. Avez-vous des questions à Chuck sur le rapport du GNSO? Merci, Chuck. Nous passons donc au rapport suivant qui sera... qui vient du comité consultatif sur le serveur Racine, le RSSAC. Et je vais demander à Suzanne Wolf de nous présenter ce rapport. Suzanne.
Merci, Monsieur le Président. Je ne savais pas que j'étais la suivante. Je vais préparer ma présentation. La technologie est vraiment une vraie bénédiction. Je vais prendre quelques minutes. Je vais être très rapide parce que j'ai une autre réunion. Sur notre travail au comité consultatif pour le serveur Racine, comme vous le savez, le RSSAC est l'un des comités consultatifs originaux de l'ICANN, établi pour donner des conseils, offrir des conseils à l'ICANN sur divers aspects de coordination et de préoccupation entre les opérateurs de serveurs racines, les activités de l'IANA qui touchent au système de serveurs racines, la zone racine et les divers impacts des entreprises de l'ICANN. Les réunions du comité sont en général se passent en parallèle avec l'IETF. La réunion la plus récente s'est passée à Anaheim le 21 mars. le point que nous avons, sur lequel nous avons travaillé était le déploiement des NSSEC. Nous avons beaucoup parlé cette semaine. Les membres du RSSAC ont fait partie de toutes les consultations, des consultations extensives autour de cet effort et depuis bien longtemps. Et bien sûr, les membres des opérateurs de serveurs racines du RSSAC ont fait partie intégrale du déploiement. Et je voudrais remercier l'ICANN, VeriSign et le team, l'équipe de NTIA et qui sont en train de gérer le déploiement des NSSC. Je crois qu'ils ont fait un travail extraordinaire et il y a eu beaucoup de discussions et de débats ouverts et qui permettent donc que ceci soit, que le déploiement soit un succès. Personnellement, j'ajouterais qu'il y a des membres du RSSAC qui ont fait partie donc de la conception et de la mise en œuvre des DNSSC depuis le départ. Certains de mes collègues travaillent dessus depuis 10 ans et donc ils ont travaillé sur la spécification, ils ont travaillé sur la technologie dans le cadre de l'équipe d'ingénierie et ils sont vraiment très heureux et ils regardent avec beaucoup de satisfaction le fait de la signature dans la racine se passe vraiment. Tous ne sont pas bien sûr, tous n'étaient pas sûrs que cela allait se passer. Le déploiement des NSSC va arriver donc à un terme et le point le plus important est le conseil demandé par le conseil d'administration concernant l'extensibilité de la zone racine. Ceci a été quelquefois mal caractérisé. Nous pensons, on nous a demandé donc quelle était notre intention de faire, qu'est-ce que nous allions fournir, et notre intention bien sûr est d'aider l'ICANN et les autres entités responsables du système de sorte que toutes les parties qui sont responsables du système puissent continuer à avoir un accès sans aucun problème avec une zone racine des DNSSEC signés et des nouveaux TLD IDN. L'effort donc concernant les efforts dans le cadre du GTLD et du déploiement des GTLD, des nouveaux GTLD, se poursuivent. Ceci va également arriver à fin à un certain moment. Ceci nous a aidé également dans le déploiement des DNSEC dans la racine. Nous aurons des recommandations pour l'avenir. Il y a un certain nombre de cadres supérieurs de l'ICANN qui sont venus à Anaheim pour présenter le modèle que l'ICANN avait commandé sur les chiffres que nous attendons dans le cadre du déploiement des nouveaux GTLD. Le calendrier, le programme n'a pas encore été établi pour la prochaine réunion. Je m'attends à ce qu'il y ait un point d'extensibilité de la racine et donc il faudra aussi que les extensions DNSSC dans la racine soient réexaminées. Et pour vous dire la vérité, je m'attends à ce que nous célébrions tout ce succès. Et bien sûr, il faudra attendre un rapport concernant cette partie de la réunion sur ce que le RSSAC fait, les points donc qu'il faudra signaler à la réunion concernant le CERT DNS, l'atelier sur les IDN, les tests relatifs aux variantes possibles. Et voilà tout, Monsieur le Président. Je vous repasse la parole. Merci, Susanna. Est-ce qu'il y a des questions à poser à le RSSAC? Sinon, nous allons passer au SSAC. Et je vais prier Dr. Crocker, le président du comité consultatif SSAC, de présenter son rapport. D'abord, après avoir écouté chacun de ces autres rapports, j'ai pensé qu'on travaillait fort et dur, mais je suis vraiment impressionnée par tout le travail que les autres comités et les organisations de soutien ont vraiment fait. Tous les efforts qu'ils ont déployés, et je ne sais vraiment pas si nous sommes à leur hauteur. Cela a été quand même une semaine très dynamique. Nous avons eu trois réunions. Une réunion interne du comité, une réunion publique du comité où nous avons présenté des rapports et une session presque, une séance marathon sur les DNSSEC mercredi matin et tôt dans l'après-midi. Je vais vous en parler un peu plus. Dans le transparent suivant, merci. Il faut que j'apprenne aussi à utiliser ces nouveaux outils de technologie. Nous nous sommes beaucoup concentrés sur le titre général de la protection des enregistrements de plusieurs aspects, dans plusieurs aspects. Je suis très heureux de voir que l'ALAC a également commencé à mettre l'accent et à s'approfondir dans ce domaine. Je pense que tout ceci est très bien. Nous avons une partie, un groupe qui travaille pour la protection des comptes d'enregistrement des noms de domaine. C'est bâti sur l'expérience acquise auparavant concernant les piratages, etc. Nous avons commencé à travailler sur les serveurs de noms orphelins. Il s'agit de l'un des extrémités lâches qui... Et donc nous essayons de nettoyer les extrémités. Nous participons avec d'autres groupes de travail ici à Bruxelles avec par exemple le groupe de travail sur l'enregistrement internationalisé, le groupe consultatif sur l'accès aux fichiers zone. Et comme Ray l'a décrit plus tôt dans le processus des révisions des divers éléments, des diverses composantes, nous sommes dans ce processus tel que donc stipulé par les règlements. Nous avons établi à l'interne la majorité des recommandations qui ont résulté de la révision. Un des changements requis qui nécessiterait un changement au règlement était d'avoir un mandat de 3 ans pour les membres du SSAC et ajouter un peu plus de structure, de processus. En général, nous révisons à l'interne nos procédures et nos processus, tout ceci dans le cadre de la maturité. Et je suis ravie que nous ayons pu passer et traverser et poursuivre ce processus de manière sans obstacle. Suzanne a parlé du processus des études concernant l'extensibilité de la racine. Ce n'est pas, bien sûr, très agréable que ça ait pris tellement de temps en essayant de lutter et de se battre avec les processus et d'examiner les événements se déployer, se dérouler. L'introduction de la signature dans la zone racine se passe également sans obstacle et ceci a été très utile. Il y a beaucoup plus de clarté concernant le taux de changement en matière d'ajout de TLD et quelque chose qui devient très clair et très simple que les parties impliquées dans les opérations devaient se réunir et parler de tous les aspects impliqués, de tous les aspects pertinents. Et enfin, et pas moins important, l'activité du DNSSEC a été décisive, s'est accrue de manière dramatique et nous avons eu des conséquences beaucoup plus importantes qui ont atteint beaucoup plus de personnes. J'ai eu la chance d'être un observateur. J'ai observé donc le processus je ne voudrais pas utiliser un terme mal approprié. J'ai utilisé le processus, j'ai observé le processus dans la cérémonie clé il y a une semaine. Il y a une autre réunion qui se passera dans quelques semaines sur la côte ouest des États-Unis et la racine donc sera lancée live le 15 juillet. Cela a été étonnant. Toutes les activités sont impressionnantes. La rapidité du rythme et le fait donc de commencer à voir les fruits de tout ce travail, les changements substantiels, non seulement dans le renforcement du système de noms de domaine, mais également dans la poussée des autres activités et dans le confortement des autres activités autour du protocole et à travers toutes les applications. Je voulais dire également que cela a été un privilège de travailler avec toutes les autres composantes de l'ICANN et la communauté. Merci, merci Steve, et merci pour votre déclaration concernant les conséquences importantes, extensives et massives. Merci pour cette... Il s'agit évidemment d'un événement extraordinaire et je vous remercie pour votre direction et votre diligence personnelle. Est-ce qu'il y a des questions à poser à Steve concernant le rapport SSAC? Je n'en vois pas, alors nous allons passer la parole à Wolfgang. Et Wolfgang, qui est donc le président du comité NOMCOM. Bonjour Wolfgang. Bonjour à tous, hors micro. Nous l'entendons pas. Très bien, merci. Merci Peter et bonjour à tous. Mon rapport est plutôt bref. Les décisions importantes qui devraient être prises par le comité NOMCOM seront prises à la fin de cette réunion. Donc, j'ai uniquement deux transparents pour ce rapport. Nous avons le processus dans le cadre duquel nous avons donc réparti en trois phases. La première phase était la phase de faire savoir. Nous avons utilisé des conférences telles que la conférence de l'IGF à Genève et à Sharm el-Sheikh, la conférence à Kuala Lumpur et la conférence de l'Apricot. Nous avons donc organisé quelques événements spéciaux, y compris un événement à Pékin pour attirer plus de candidats de la région Asie-Pacifique. Et nous avons distribué beaucoup de matériel publicitaire et informationnel, d'informations donc, pour que ceci atteigne le grand public. Au début d'avril, nous avons commencé l'évaluation. Nous avions 82 candidats. Nous avons, pour les 11 positions à pourvoir, nous avons commencé donc par, nous sommes adressés à ONB, qui est un fournisseur de services externes. Il a donc interviewer les candidats pour évaluer leurs qualifications spécifiques. Nous avons passé par la suite à une notation interne de chacun de ces candidats au NOMCOM, y compris les qualifications, les habiletés et les compétences de chacun de ces candidats et leur capacité à confronter les divers événements et les diverses opportunités. Après cette réunion, nous allons nous déplacer vers un site en dehors de Bruxelles où nous allons nous réunir pendant 2 jours et nous espérons qu'après notre emprisonnement de 3 jours, nous allons pouvoir sortir du château en ayant donc 7 nouveaux membres du comité. Quelques observations relatives à nos processus. Nous avions seulement 82 candidats, mais nous avions que 4 femmes. Nous avons besoin, c'est un appel à candidature à toutes les femmes. L'ICANN a besoin de plus de 4 candidatures de femmes pour atteindre un équilibre. Pour le moment, nous avons uniquement une seule femme, donc membre du conseil d'administration, et nous en avons besoin de plus. Il y a un grand intérêt, bien sûr, dans les candidatures au conseil d'administration. Ceci démontre également que quelque chose doit être fait pour expliquer à la communauté que le travail d'élaboration de politique le plus important se fait dans les conseils et dans le comité at large. Et que at large, l'ALAC a une importance de plus en plus croissante au sein de l'architecture de l'ICANN. Et qu'il y a donc, il faut aussi apporter plus de transparence et d'interaction parmi et entre les divers organes de l'ICANN. Nous avons eu des décisions, des discussions concernant la charge de travail et la question de la compensation. Et pour être honnête, au bout du compte, le conseil d'administration de l'ICANN n'est pas une catégorie de riches, de vieux riches, parce que nous devons donc attirer des jeunes qui sont intéressés par l'ICANN et dont nous pourrons donc compenser la charge de travail. Enfin, de mon expérience, c'est la première fois qu'en tant que président, je voudrais vous dire que le NOMCOM est un endroit et un comité très intéressant. La composition est très intéressante. Il représente l'ensemble de la communauté de l'ICANN. Chaque regroupement peut désigner des responsables au comité, au NOMCOM, et je suis vraiment très reconnaissant aux divers regroupements de l'ICANN qui prennent très au sérieux cette désignation, cette nomination de membres au comité NOMCOM. Nous avons eu, en tant que membres du NOMCOM, 4 présidents du conseil d'administration. Ceci montre que la communauté comprend vraiment le sens du comité de nomination et je voudrais remercier spécialement l'ensemble du personnel de l'ICANN pour leur travail extraordinaire. Sans le soutien du personnel, le comité NOMCOM n'aurait pas pu finir son travail.
Merci beaucoup. Les chiffres concernant la participation des femmes sont extraordinaires, particulièrement lorsqu'on regarde les nominations au directoire à travers l'histoire. On a toujours eu des très bonnes contributions de la part des femmes. Si on repense à Trisha Drake, Renji, Rionge, et nous avons toujours eu de la très haute qualité. Est-ce que vous avez une idée de la raison pour laquelle, à ce stade de notre histoire, nous avons un rapport aussi étrange, un ratio aussi étrange en termes de candidats, non? Est-ce qu'il y a un problème dans la façon dont nous fonctionnons? Nous faisons beaucoup de sensibilisation, nous avons un grand nombre de personnes qui répondent. Est-ce qu'il y a quelque chose dans la sensibilisation, dans le travail de proximité, qui envoie un signal qui dit aux femmes de ne pas présenter leur candidature? Bon, eh bien, nous allons former une commission d'études entièrement masculine pour examiner ce problème. Simplement une question très rapide. Quelle est la composition du NOMCOM lui-même en termes de diversité de répartition entre les sexes? Alors, dans le NOMCOM, il y a 3 femmes. Sur 15 membres votants, il y a 3 femmes. Mais c'est au regroupement. Le NOMCOM prend les gens dont ils reçoivent les candidatures par les regroupements. Donc, c'est un appel à tous les membres féminins de la communauté ICANN de présenter leur candidature aux différents postes. Marilyn. Je m'appelle Marilyn Cade. Je vais vous parler de 3 choses. Tout d'abord, je vais vous parler des efforts individuels que je fais pour atteindre des femmes qualifiées pour leur demander de présenter leur candidature pour une série de postes. Je vais dire les choses très clairement. Le NOMCOM n'a pas seulement pour tâche de proposer des candidatures au directoire. Mes observations qui datent du temps où j'ai participé au NOMCOM, c'est qu'il y a une concentration excessive simplement sur le directoire et le NOMCOM ne se concentre pas suffisamment sur l'attraction de leaders dans le reste des organisations de soutien pour que les gens puissent se voir instruire, pour qu'ils puissent se familiariser avec l'ICANN et finalement arriver à des positions de responsabilité. Et c'est un point très important parce que particulièrement lorsque je m'adresse aux femmes dans d'autres pays et dans d'autres cultures, lorsque je leur demande d'envisager cela, elles me disent que bon nombre d'entre elles ne se sentent pas compétentes pour prendre un poste au directoire et elles préfèrent faire ça ailleurs. Commencer ailleurs. Donc si on ne fait pas un effort concerté pour les aider, ça ne changera pas. Ensuite, deuxième point, c'est un obstacle au recrutement de candidats hautement qualifiés, hommes ou femmes, sans prévoir un remboursement d'une manière ou d'une autre. J'en ai parlé auparavant, mais c'est un réel obstacle. Et chaque fois que je vais voir quelqu'un et je dis voilà, nous avons une organisation fantastique, vous pouvez vraiment faire la différence, ils me disent oh super. Et tout de suite on en arrive à la question des honoraires. Alors le point numéro 3, en ce qui concerne la TRT, les conseillers politiques du GNSO ont ajouté un critère qui demande un quota, qu'on établisse un quota de participation de femmes. Les membres féminins de mon regroupement se sont opposés et parce qu'elles ont préféré qu'on se concentre sur la nécessité d'une qualification et de capacité. Donc faisons attention. Dans nos tentatives d'améliorer la représentation des deux sexes et la diversité géographique, n'oublions pas, ne perdons pas le ballon de vue et assurons bien que notre organisation soit composée des membres du directoire les plus qualifiés, les plus compétents possibles, que nous ne laissions pas aveuglés par la nécessité d'avoir plus de femmes. Marilyn, deux réponses très rapides. Tout d'abord, la qualité d'abord, avant tous les autres critères d'équilibre. Et ensuite, la seconde réponse, c'est la suivante. Nous avons parlé à certains candidats qui ont présenté leur candidature au directoire et nous leur avons demandé s'ils présenteraient leur candidature à d'autres postes au conseil, mais dans 99% des cas, la réponse est non, ils veulent juste être au directoire. C'est la raison pour laquelle je vous le dis. Je pense que c'est un point important pour élever le niveau de reconnaissance des postes au conseil et en faveur de relever le profil de ces postes au conseil et au comité consultatif. L'action parle plus que les mots. Et tout le... Bon, je pense que nous devons interrompre ce débat. Nous avons une réunion du directoire qui est prévue. Nous devons encore entendre des rapports très importants. Vanda, simplement pour dire qu'il y a vraiment un problème au niveau de la réduction du nombre des femmes dans les domaines informatiques, dans son ensemble, pas seulement dans le domaine d'Internet, mais en tout cas, c'est une réalité. Je pense que nous devons commencer le travail chez nous déjà. Vanda, vous êtes un très bon exemple que, à partir d'un poste au directoire, vous pouvez passer à un comité consultatif et faire un très bon travail. J'utilise votre exemple pour essayer de convaincre certains des candidats au directoire. Je suis la troisième femme qui prend la parole ici. Je ne suis pas ici pour reprendre la défense des femmes. Il y a plusieurs finalistes. Il y avait plusieurs finalistes pour certains des postes importants que le NOMCOM envisageait. Et j'espère que s'ils n'y arrivent pas cette fois, que leur candidature sera toujours valable et prise en considération à l'avenir. Merci. Fawad Bashaf du Pakistan, de l'ALAC. à Pralo, à Lac. Je viens d'une partie du monde en voie de développement et mes expériences avec l'ICANN m'ont enseigné pas mal de choses. Je pense que le programme de bourse est un programme important pour aussi le travail de sensibilisation d'une homme-com. Pourquoi ? Par exemple, si dans l'industrie des télécoms et informatique du Pakistan, il y a une femme parmi les dirigeants qui travaille dans un secteur qui a beaucoup de valeur. Il y a certains exemples. Ils sont arrivés à l'ICANN. Mais pour elle, c'est difficile de trouver des manières, par exemple, de participer au même regroupement, au même groupe de travail. Donc je crois que le programme de bourse devrait peut-être favoriser la participation des femmes. Ça, c'est la première étape. Ensuite, nous avons beaucoup d'exemples de femmes qui participent à du travail sur des problématiques importantes de notre secteur dans nos pays. Et ces femmes doivent être encouragées à se présenter. Il faudrait qu'elles participent vraiment au cœur des comités consultatifs. Et ensuite, il faut que nous attirions autant de femmes que possible des pays en voie de développement dans notre partie du monde. C'est un problème. Je peux dire que les femmes sont peut-être hésitent simplement à se présenter. Elles doivent peut-être passer par ce processus par lequel nous passons, nous les boursiers. Peut-être pendant 10 mois venir suivre un programme de formation des dirigeants. Peut-être c'est une expérience importante. Je pense que la même expérience peut fonctionner pour beaucoup de femmes de notre région. Merci beaucoup. Je m'appelle Liz Williams. J'étais au NOMCOM l'année dernière et j'ai mené la bataille pour la qualité d'abord et peu importe s'il s'agit d'hommes et de femmes. Je voudrais répéter ce principe parce que je pense que c'est un point fondamental. Et il n'y a aucun endroit dans le règlement d'ICAM où on précise qu'il faut une diversité et une représentation de femmes et d'hommes. Sinon, moi, dans une autre partie de ma vie, je suis responsable d'un répertoire commercial en ligne pour les entreprises qui appartiennent à des femmes, mes membres. Elles sont du monde entier, elles utilisent Internet pour leurs activités parce que c'est comme ça qu'elles font des affaires, qu'elles commercent entre elles ou qu'elles soient dans le monde. Et une chose qui, à mon avis, pourrait être une suggestion intéressante sur l'encouragement de la présence davantage de femmes, ce serait de lancer un appel aux différents éléments de la communauté. Dire, voilà, nous cherchons des femmes hautement qualifiée. Hier, j'ai reçu un courrier électronique de la commission des nominations au Royaume-Uni. J'arrive au Royaume-Uni qui cherche des femmes dans des positions de direction pour faire toutes sortes de choses. Et ayant participé au NOMCOM, ayant participé à la communauté pendant longtemps, alors au conseil de Oda, où Cheryl et moi, nous étions les seules filles, mais en fait, nous sommes vraiment bien amusées. Il y a différents canaux pour faire les choses, il y a différentes voies, et je suis très contente d'avoir un rôle de sensibilisation, de donner des conseils aux gens, mais les gens ont peur de l'engagement et de la charge de travail lorsqu'ils réalisent dans quoi ils se sont mis, et c'est une terreur qui est tout à fait justifiée. Je me demande si ce n'est pas plus sensé d'inviter un groupe de personnes à dire peut-être voulez-vous vous joindre à nous et apprendre et faire un cours de formation pour vous familiariser avec les différentes problématiques, pour apprendre le langage. Et encore une fois, je suis très heureuse de contribuer à faciliter cela parce que je reviens à la question de qualité. La qualité est fondamentale et je reconnais que les conseils d'administration et les organisations qui fonctionnent bien ont en général une diversité de représentation des sexes. Merci beaucoup. Alan Greenberg. Comme quelqu'un qui a présenté sa candidature au NOMCOM deux fois, mais pas à un poste au directoire. Bon, la déclaration d'intérêt et la documentation de soutien est destinée au directoire. Donc, c'est vraiment difficile de remplir ces documents lorsqu'on essaye de présenter sa candidature à l'un des autres postes. Alors, simplement dire que nous cherchons des dirigeants. Essayez de vous imaginer disant « je veux être un leader de l'organisation », ça ne fonctionne pas. Si vous voulez que les gens présentent leur candidature pour ces postes, créez la documentation appropriée, créez une foire aux questions et une déclaration dans la demande qui vise les personnes qui sont susceptibles de présenter leur candidature. Maintenant, nous allons passer à la dernière intervention sur ce point. Merci, Peter. Je me suis dit que j'allais intervenir comme le seul membre féminin du directoire qui vote. Je voudrais partager mes réflexions avec vous. Je voudrais soutenir ce que les autres ont dit ici aujourd'hui. Je travaille beaucoup sur la diversité dans mon cabinet d'avocat. Et la triste réalité de toute cette affaire, c'est que les femmes qui réussissent vraiment sont franchement très, très occupées. Et même si cela s'est amélioré, même si les statistiques montrent que la quantité de temps que les hommes consacrent à être des parents a augmenté, c'est devenu assez important. Les femmes ont toujours la majorité des charges correspondant à l'éducation des enfants et au travail de la maison. C'est très difficile de trouver un équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle. Et je pense que c'est la raison pour laquelle je veux me concentrer sur la nécessité d'essayer de faire face à la charge de travail du directoire. Je crois qu'il y a une norme, c'est 20 à 30 heures par semaine. Et c'est ce qu'on dit aux gens qui rentrent et ça semble absolument trop. Et nous avons besoin de gens qui ont du talent, qui sont qualifiés et qui ont du temps libre. Alors une autre chose que je voudrais faire, et Wolfgang, je suis heureux de te parler de cela, je pense que nous avons besoin de personnes effectivement talentueuses, mais nous devons faire de la sensibilisation, aller vers les gens si nous voulons, si nous n'avons vraiment que 4 personnes qui présentent leur candidature, nous devons peut-être organiser un événement pour essayer d'attirer une femme. Moi, je serais heureuse d'offrir mes services pour essayer de leur parler, pour essayer de leur donner des instructions, pour leur faire comprendre quelles sont les exigences pour le travail au directoire. J'essaie toujours de rencontrer les femmes de la communauté dans la mesure de mes moyens, même si vous savez que nous avons un programme très chargé, mais je suis heureuse de vous, je serais heureuse d'utiliser toutes les idées que vous pourriez avoir pour nous aider à améliorer notre relation avec les femmes et attirer davantage de femmes. Merci Rita, merci pour cette proposition d'aide. Nous avons reçu beaucoup de propositions d'aide. Wolfgang, le Nomcom sera peut-être capable de les accepter. S'il y a quelque chose que le directoire peut faire pour donner un coup de main, faites-le-moi savoir. Je voudrais maintenant clôturer ici, à moins qu'il y ait d'autres problématiques à soulever sur base du rapport du Nomcom. Il semble que nous nous sommes concentrés sur les problématiques essentielles. Merci Wolfgang, merci beaucoup et bonne chance pour le travail du Nomcom. Nous allons vous observer en retenant notre souffle et maintenant nous allons passer au dernier rapport. Merci Monsieur le Président. Donc le rapport du bureau de l'Ombudsman. Merci Monsieur le Président. Étant donné que vous avez une réunion du directoire qui commence dans 4 minutes, je vais simplement dire que mon rapport est en ligne depuis plusieurs jours et je serai très heureux de répondre aux questions que quiconque aurait à me poser. Nous allons certainement remettre à plus tard la réunion du directoire pour faire de la place à tous ces autres rapports très importants. Est-ce qu'il y a des questions sur le rapport de l'Ombudsman? Moi, j'ai une question pour l'Ombudsman de la part de la communauté qui participe à distance. C'est une question qui a été posée déjà avant que Franck vienne sur la scène. Est-ce que le directoire de ICANN envisagera une évaluation indépendante avec une contribution du public de la performance de l'Ombudsman? La réponse est qu'il n'y a pas de projet actuellement, que le comité des rémunérations qui supervisent un aspect de la performance de l'Ombudsman réalise ou a une discussion régulière sur la performance avec l'Ombudsman et de temps en temps ils ont reçu des conseils de l'extérieur par rapport aux techniques d'évaluation standard du secteur. Donc il n'y a pas de plan actuel, de projet actuel de le faire, mais en son temps le comité responsable des rémunérations y reviendra peut-être. Frank, merci beaucoup pour votre rapport. Merci beaucoup d'avoir attendu jusqu'à la fin. Est-ce qu'il y a un commentaire de la part des panélistes ou est-ce qu'on peut clôturer la session? Eh bien, si c'est la séance, eh bien, si c'est le cas, comme il n'y a pas de commentaire, merci beaucoup pour vos rapports sur ces comités qui sont des organes très importants de l'ICANN. Nous allons maintenant prendre une petite pause de 5 minutes pendant laquelle je vais demander aux membres du directoire de venir sur la scène et de prendre un siège. Et dès que nous serons prêts, nous pourrons commencer. Merci à tous.